6. Je voudrais remercier, ce n'est pas toute l'Assemblée qui était au courant, mais on a eu, notre petit bonhomme a fait une appendicite cette semaine. Alors merci à ceux qui ont prié, ça s'est bien passé malgré tout, il a été opéré, tout ça. Et puis comme vous le voyez, c'est un petit bonhomme qui est debout sur ses pattes. Je pense que le défi, ça va être de le garder assis un petit peu. Merci à l'équipe de louanges. Vous nous avez vraiment conduits dans la présence de Dieu. J'ai été béni. On va prier ensemble. Éternel notre Dieu, nous sommes assemblés ce matin pour te rencontrer, Seigneur. Nous avons, Seigneur, gardé ce temps pour toi comme tu nous le demandes, Seigneur. Non pas comme un devoir, non pas parce qu'il le faut, mais parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Besoin de te rencontrer, de t'entendre, parler à nos cœurs. Je te prie, Père, dans ta grâce, de venir nous rencontrer encore une fois dans ta parole, que ton esprit puisse librement parler à nos cœurs ce matin. Que ton esprit, Seigneur, vienne adresser tout ce que tu as adressé dans nos vies et dans nos cœurs, qui que nous soyons dans cette salle. Viens te glorifier, Seigneur. Et je te prie de m'accorder la grâce de prêcher ta parole clairement. Quel texte merveilleux, Seigneur. Ta parole est magnifique. Remplis-moi de ton esprit, Saint. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Romains 6. On en est à la troisième prédication dans la lettre aux Romains. C'est vraiment un exercice d'acrobatie un petit peu qu'on fait, de pouvoir exposer comme ça un livre en quatre prédications. Je vais terminer ça la semaine prochaine. Et donc, évidemment, il y a des parties du livre que je saute. Je l'ai déjà mentionné. Mon ambition n'est pas d'exposer tout le livre. Je suis allé voir ce que différents pasteurs ont fait, que j'apprécie beaucoup. Plusieurs passent 2 ans dans Romains, d'accord? Mais en même temps, comme cette assemblée est habituée à recevoir comme diète, si vous me permettez l'expression, l'exposition d'un livre pratiquement section par section, on est dans Matthieu depuis un bon bout de temps, on va l'être encore d'après moi pour 1 an et demi au moins. J'ai jugé bon cet été, je crois conduit par Dieu à passer dans Romains, puis rapidement faire un survol de Romains. C'est une lettre vraiment fantastique, et plus j'y plonge les regards, plus je comprends pourquoi Tyndale pensait que tous les chrétiens devraient connaître ce livre par cœur. C'est un livre vraiment magnifique. Alors, ça fait déjà 2 prédications que nous sommes dans ce livre. V'là 2 semaines, ce qu'on a vu ensemble dans les chapitres 1 à 3, nous avons vu ensemble que Paul démontrait que tous les hommes sont pécheurs. Toutes les personnes sur la terre sont pécheurs et sont sous la colère de Dieu. Aucun n'y échappe. Que ce soit les Juifs qui connaissent la parole de Dieu ou ceux qui se sont inventés toutes sortes de religions, qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu, mais qui déjà, par la création, auraient pu saisir qu'il y a un Dieu et le chercher, mais qui ont préféré s'inventer des dieux. D'accord? La semaine dernière, ce qu'on a vu ensemble, et donc, il y a 2 semaines, on a vu la mauvaise nouvelle qui prépare le chemin pour la bonne nouvelle que nous avons vue ensemble la semaine dernière. Et on était dans Romains 3, 21, jusqu'à la fin du chapitre 5. Et on a vu ensemble la semaine dernière la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et c'est en fait qu'à cause du sacrifice de Christ, nos péchés peuvent être pardonnés. La justice de Christ nous est imputée par la foi. La justice de Christ est appliquée sur le pécheur, et Dieu demeure juste en déclarant juste l'injuste. Vous avez suivi ça? Dieu demeure juste en déclarant juste l'injuste parce que sa justice a été rencontrée par le sacrifice de Christ à la croix. On a vu ensemble que Christ nous avait rachetés du péché par son sacrifice, et on a vu ensemble, enfin la semaine dernière, toute cette grande idée qui trouble tant de gens, que Jésus-Christ est venu s'offrir comme sacrifice pour détourner la colère de Dieu qui était sur nous. C'est ce qu'on appelle victime propitiatoire. Christ est venu s'offrir en sacrifice afin que la colère de Dieu qui reposait sur nous soit détournée de nous. Par conséquence, qu'elle vienne reposer sur ses épaules. Et c'est son cri qu'on entend à la croix. Lorsqu'il s'exclame, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est ce qu'on appelle la notion de victime propitiatoire. C'était les chapitres 3 à 5. Ce matin, on va survoler ensemble les chapitres 6 à 8. Alors, chapitre 1 à 3, tous sont pécheurs, donc tous sont perdus. Chapitre 3 à 5, tous peuvent être sauvés, justifiés par la foi seule en Jésus-Christ. Chapitre 6 à 8, notre nouvelle identité. Par l'Esprit de Dieu, marcher dans cette justice. Ce sont les chapitres 6 à 8. L'apôtre Paul, dans les versets 3 à 5, vient juste de démontrer qu'on peut être gratuitement justifié par la foi, juste par la foi sans les œuvres. Dieu va déclarer un pécheur, quelqu'un qui a commis des choses abominables dans sa vie, mais qui va saisir la croix à la fin de sa vie. Pensez aux paroles de Jésus, les ouvriers de la dernière heure, qui va saisir la croix par la foi à la fin de sa vie, va être déclaré juste. C'est ce qu'on vient de voir dans les chapitres 3 à 5. Alors, lorsqu'on arrive au début du chapitre 6, mais Paul va répondre à une question. C'est comme si Paul imaginait quelqu'un qui venait le contredire. Voici ce qu'il dit au chapitre 6, verset 1, dans Romains. « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Et je crois que Paul répondait ici à des choses que des contradicteurs lui avaient présentées devant ce salut par grâce. Je crois que Paul est en train de répondre à des gens qui lui ont dit, « Ben, c'est ça. Donc, ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, puisqu'on est sauvé uniquement par grâce, et si, chaque fois que je pêche, la grâce est plus abondante que mon péché, bien, à ce moment-là, pourquoi ne pas pécher davantage? Puis en plus, lorsque je pêche et que Dieu manifeste sa grâce, il est glorifié par ça, donc. Plus de péché, plus de grâce, plus de gloire à Dieu. Ça fait du sens? » Et bien honnêtement, sans avoir un raisonnement aussi ridicule que ça, je crois qu'on est en train de faire la démonstration qu'il y a des gens qui pensent ça, lorsque dans notre propre vie, nous ne sommes pas consacrés dans une recherche de sainteté. Et qu'on se dit, bof, il va pardonner. Christ est mort pour tous mes péchés. Il n'y a rien qui presse. Sauver un jour, sauver toujours. On commence à se rapprocher pas mal de ça, par notre comportement, même si on n'avoue pas ces raisonnements-là. Mais Paul dit, impossible de raisonner comme ça. Raisonner ainsi, c'est renier Christ. C'est faire la démonstration qu'on n'a pas saisi l'Évangile, que nous n'avons pas saisi, que nous avons une nouvelle identité en Jésus-Christ. Il y a quelque chose de la bonne nouvelle qui n'a pas été compris. Je vous lis les versets 1 à 6 de Romains 6. Notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Tous ceux qui ont été baptisés, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont une nouvelle identité. Vous avez une nouvelle identité du moment que vous avez été baptisés en Jésus-Christ. Le baptême, cette image, le baptême par immersion est une image de notre identification à la mort avec Christ, à l'ensevelissement avec Christ, et à la résurrection avec Jésus-Christ. ainsi tous ceux qui ont été baptisés, comme on l'a vu il y a quelques semaines, se sont identifiés à Christ dans sa mort. Jésus-Christ nous a laissé deux institutions, lesquelles? Le baptême, le repas du Seigneur. Elles sont extrêmement importantes. Elles sont extrêmement importantes. Les Saintes Écritures nous enseignent que le baptême est un symbole par lequel le croyant est identifié à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Ce que Paul est en train de dire ici, il dit, voyons donc, rappelez-vous de votre baptême! Rappelez-vous de votre baptême! Lorsqu'on insiste pour que ceux qui professent, ceux qui disent croire dans le salut en Jésus-Christ, lorsqu'on insiste à vous encourager, à vous faire baptiser, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas juste un T-shirt qu'on porte qui dit « J'aime Jésus ». C'est le témoignage public d'un engagement qui devient le fondement de notre foi, qui me permet à chaque fois que je suis au milieu des combats, des déceptions, des luttes avec le péché, de regarder en arrière et de dire « J'ai été identifié avec Jésus-Christ » par mon baptême, j'ai fait ce pas de foi de m'identifier à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont cette nouvelle identité en Jésus-Christ. Rappelez-vous de votre baptême, rappelez-vous de ce qu'il représente. Christ est mort sur la croix pour vos péchés et votre baptême représente cette identification à la mort de Christ. Lorsque Christ est mort sur la croix et qu'il a été mis en terre, il est mort pour le péché. Une fois pour toutes, nous dit Paul. Chaque fois que vous péchez, est-ce que Christ est crucifié à nouveau? Il est mis à mort à chaque fois que vous péchez? Une fois pour toutes, il est mort. La victoire a été acquise. Le pardon a été gagné. La justification a été gagnée. Le sacrifice est accompli. Et il est mort une fois pour toutes. Maintenant, suivez bien ceci. Si la justice de Christ m'est imputée par la foi, n'est-ce pas, c'est ça qu'on croit, hein? Sans l'ombre d'un doute, nous allons avec assurance en disant, Seigneur, quand je vais me présenter devant toi, j'ai beau avoir une histoire dont j'ai honte, je sais que la justice de Christ m'est imputée par la foi. Si ça, c'est réel, et si je le saisis par la foi, ma mort avec Christ l'est tout autant. Parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Pour que la justice de Christ me soit imputée, il faut qu'il y ait d'une manière, devant Dieu, dans un domaine spirituel, quelque chose de bien véritable, où je suis mort moi aussi, avec Christ, par la foi, de la même manière que sa justice m'a été imputée. Je suis devenu un avec Christ. Et je suis devenu un avec Christ dans sa mort, afin que je puisse ressusciter avec lui un jour. Si j'ai été justifié en Jésus-Christ, c'est que je suis mort avec lui et que je suis ressuscité pour marcher et vivre pour Dieu maintenant. Il y a quelque chose qui s'est passé où j'ai été libéré de la loi du péché. J'ai une nouvelle identité. Je suis un justifié de la grâce. Et par conséquent, je suis mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Paul me dit qu'avant, on était des esclaves du péché. Tantôt, on va parler de la nature pécheresse. Mais Paul me dit qu'avant, nous étions esclaves du péché. À présent, je suis libre du péché. Et j'ai la joie de pouvoir offrir mes membres comme esclaves de la justice. Mais des fois, et je crois que c'est l'apprentissage d'une vie. Des fois, on se comporte comme de vieux esclaves. Vous savez, ces gens qui, dans les pays où on pratiquait l'esclavagisme, et il y en a encore dans le monde aujourd'hui, ces gens qui naissent esclaves. Et pendant la guerre de sécession, à la fin de la guerre, il y a des gens qui ont été libérés, qui ont été esclaves toute leur vie. Libérés à 50 ans, à 55 ans, à 60 ans. Ces gens-là, dans leur identité, ne se voient que comme des esclaves. Enchaînés toute leur vie, apprenant chaque fois qu'ils croisaient un homme blanc à détourner le regard pour être certain de ne pas confronter, pour être certain de ne pas provoquer une réaction. Ces gens-là ne se voyaient pas comme des hommes libres. Ça a dû être tout un apprentissage pour eux. Le jour où ils ont été libérés par des soldats qui leur ont dit « Tu es libre maintenant. » Je m'en vais où? Qu'est-ce que je fais? J'ai le droit de regarder un homme dans les yeux sans que ça mérite le fouet. De la même manière, nous avons un apprentissage à faire. Et Paul nous dit au chapitre 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. » Nous avons un apprentissage à faire pour apprendre à nous regarder nous-mêmes comme libres du péché, libres de cet esclavage et véritablement libérés en Jésus-Christ. Car c'est aussi vrai que ma justification par la foi est vraie. Vous croyez, vous saisissez par la foi que Dieu ne vous reprochera pas vos péchés à cause du sacrifice de Christ, bien croyez que vous êtes mort au péché. Même si la nature pécheresse n'est pas totalement morte. Ça, c'est la suite. Nous avons une nouvelle identité, frères et sœurs, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, vivre dans le péché, m'y abandonner, m'y complaire, ce serait renier Christ. Ce serait renier qui je suis. C'est la même chose que cet homme qui a été libéré après avoir été esclave toute sa vie, qui retournerait vers son maître et qui dirait « Je vous en prie, remettez-moi mes fers. » C'est la même chose. Fouettez-moi encore. C'est la seule chose que j'ai connue. C'est impossible. Ce serait renier Christ. Ce serait renier notre nouvelle identité en Jésus-Christ et la gloire et la puissance de ce que Christ a fait. Nous ne pouvons nous complaire et nous abandonner dans le péché. Ou bien nous dire encore, « Bof, je demanderai pardon, la grâce est surabondante. » Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est le premier élément des chapitres 6, 7 et 8. Cette nouvelle identité que nous avons, et c'est un apprentissage pour nous d'entrer dans cette réalité. Ce n'est pas juste des vues de l'esprit où on essaie de se dire « Je suis libre du péché, je suis libre du péché, je suis libre du péché. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Chaque matin, quand je me lève, lorsqu'on vous parle de vivre une vie centrée sur la croix, chaque matin, lorsque je me lève, les premières pensées que je dois avoir doivent être tournées vers Christ et vers la croix. Parce que ma nature pécheresse est encore là, on va en parler. Et je dois donc retourner à la croix pour saisir par la foi. Et si ça vous aide, commencez par votre pardon. Par la foi, Seigneur, je sais que je suis pardonné, que tu es mon Père, que tu m'aimes, Seigneur, et qu'aujourd'hui, toutes choses qui m'attendent concourent à mon bien, parce que tu es mon Père, que tu fais concourir toutes choses à mon bien, et que lorsque je vais pécher, je vais trouver ce pardon auprès de toi. Je le saisis par la foi, Seigneur. Et de la même manière, je saisis par la foi cette nouvelle identité que j'ai en Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave du péché, mais j'ai cette joie de vivre pour toi et d'offrir mes membres comme esclaves de la justice. Chaque matin, chaque soir, chaque fois que la tentation vient d'aller et de retourner à votre ancienne vie, revenir à la croix, méditer sur la croix, saisir ce que Christ a acquis pour nous à la croix, cette nouvelle identité libre du péché. Alors, est-ce que ça veut dire, j'ai déjà répondu un peu à la question, est-ce que ça veut dire qu'une fois que j'ai été baptisé en Jésus-Christ, tout va bien, je fais toujours le bien, je ne pêche plus? Si c'était si simple, c'est parce qu'on serait déjà rendu au ciel. Ça, c'est la fin du message. Si c'était si simple, c'est parce que notre espérance glorieuse serait déjà accompli. Mais tant que nous serons dans cette chair, et je ne parle pas juste de mon corps, je parle de la nature pécheresse qui est là, le combat va demeurer jusqu'à la fin. Il n'y a pas de chrétien qui ne pêche plus. Ce n'est pas si simple, parce qu'on attend encore d'aller dans la présence du Seigneur. C'est le deuxième élément à retenir, le combat entre notre vieille nature et notre nouvelle nature. Et ça, on trouve ça beaucoup dans le chapitre 7, essentiellement, le début du chapitre 8. Voyez-vous, depuis le péché de notre père à tous, Adam, nous avons hérité tous et chacun de cette nature pécheresse. Tous les hommes sur la terre sont pécheurs. C'était le chapitre 1 de Romains. Chacun d'entre nous, nous sommes pécheurs et nous avons cette nature pécheresse. Nous la portons tous en nous. Maintenant, sur la terre, il y a trois groupes d'individus. Il y a les personnes du chapitre 1 qu'on a vues ensemble. Ils ont une nature pécheresse, pareil comme tout le monde. Ils ne connaissent rien à la loi de Dieu, ne connaissent pas la parole de Dieu. Et Dieu nous dit, Paul nous dit dans Romains 1 que Dieu les a livrés à leur péché. Ces gens-là ne vivent pas beaucoup de combats avec la nature pécheresse. Ils ont la nature pécheresse et ils l'assument. Ils l'assument et ils en profitent. Ils peuvent même en venir à se glorifier du péché. Notre société est pleine de ça. Nous avons une société extrêmement libérale. Eh bien, il y a peut-être moins d'hypocrisie, plus de péché ouvert. Ils peuvent en venir à se glorifier de ça. Ces gens-là n'ont pas beaucoup de combats. Peut-être parfois, ils vont être malheureux des conséquences de leur péché. N'est-ce pas, le péché apporte toutes sortes de conséquences dans la vie. Ils vont être malheureux de ça. Non pas comme parce qu'ils ont enfreint une loi de Dieu, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, parce que ça amène de l'inconfort dans leur vie. Ils vont essayer de régler ces choses-là tout en demeurant dans le péché. Ils ne connaissent pas la loi de Dieu, ils ont la nature pécheresse, et ils vivent là-dedans. Sans attendre le jugement de leur Créateur. Le péché est tellement agréable à celui qui s'y complaît. Personnellement, je n'ai jamais vraiment été de ce nombre-là. Et Dieu sait que ça m'a pris du temps avant de me convertir et de donner ma vie à Christ. Moi, j'étais dans le deuxième groupe. Le deuxième groupe, ce sont ces personnes qui ont été exposées à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. À l'âge de 7 ans, ma mère et mon père ont commencé à fréquenter cette assemblée. Alors, j'ai été exposé à la loi de Dieu. On l'a placé devant mon regard. On l'a placé devant moi. Ça, c'est le deuxième groupe qu'on trouve dans la lettre aux Romains. Ces gens qui connaissent la loi de Dieu, la parole de Dieu. Alors, ces gens-là peuvent vivre un combat incroyable. Parce que la loi de Dieu est sainte, elle est juste. On trouve en elle les standards de Dieu. Alors, ces personnes qui ont une nature pécheresse pareille comme tout le monde sur la terre, sont placés devant la parole de Dieu, devant les standards de sainteté de la parole de Dieu, et ils souffrent de leur incapacité à rencontrer les standards de Dieu. Par eux-mêmes, à cause de leur nature pécheresse, ils en sont incapables. Pensez aux Juifs. Pensez aux Juifs qui n'ont pas reconnu en Jésus le Messie, qui ne connaissent pas la puissance de Dieu, la bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus-Christ. Plusieurs d'entre eux sont attachés à la loi. Et par des efforts incroyables, tente de devenir juste en respectant tous les standards de Dieu. Mais je pense aussi, et si Paul avait vécu à notre époque, je suis convaincu qu'il aurait ajouté aux Juifs tous ceux qui font partie de la culture chrétienne sans avoir saisi l'Évangile. Tous ceux qui font partie de la culture chrétienne, comme je l'étais avant ma conversion, sans avoir saisi l'Évangile, sans avoir été sauvés par la grâce de Dieu, sans avoir dans leur vie la puissance de l'Évangile. Et au nombre que nous sommes ce matin, c'est certain qu'il y a plusieurs personnes dans cette salle qui font partie du deuxième groupe. Vous n'êtes plus sans connaître la loi de Dieu. Vous n'êtes plus sans connaître absolument la parole de Dieu. Mais avez-vous saisi la puissance de Dieu qui est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ? C'est certain qu'il y en a plusieurs qui sont dans le deuxième groupe ici ce matin. En fait, Paul nous dit qu'on est, encore plus tordu que ça. Et il nous dit que, et c'est mon expérience à moi, il nous dit que la loi de Dieu est sainte et elle peut devenir pour nous une tentation à pécher même. Non seulement on peut être placé devant les standards de Dieu et souffrir de notre incapacité à être aussi saint que ce que Dieu nous demande dans sa parole, mais en plus de cela, la loi devient comme une tentation. L'interdiction elle-même devient une tentation. Ça a été mon expérience. C'est pas que la loi est mauvaise, au contraire, mais notre nature pécheresse se saisit de la loi. comme d'une tentation. Maintenant, remarquez que notre culture joue énormément avec cette idée-là. C'est très, très, très présent, cette idée de jouer avec l'interdit. C'est interdit, mais oh, ça serait bon. C'est rempli dans notre culture. La culture occidentale a été imprégnée par plein de valeurs chrétiennes qui viennent des Écritures. Et donc, il y a cette loi qui est répandue un peu partout dans la culture. Et on joue avec cette idée de l'interdit qui serait savoureux à franchir. Je pense que les jeunes gens tombent souvent dans ce piège d'être tentés par les interdits de leurs parents qu'ils placent devant eux. Je sais que je l'ai vécu comme ça avant ma conversion. Tout ce qui est interdit, c'était pour moi la chose à essayer. C'est clair? Ça devenait une tentation. Je ne suis pas certain que j'aurais essayé la dope que j'ai essayée si ça n'avait pas été interdit. Honnêtement, je ne suis pas certain. Dans mon cas, moi, ce n'était pas un fun trip. C'était vraiment pour violer les interdictions. C'était ça dans mon cas. Et je crois que c'est le cas souvent, ça va commencer comme ça. Quand j'étais étudiant au cégep, on avait un prof de photo, excellent prof de photographie, mais un non-croyant, un homme extrêmement sensuel. Il a ouvert mes yeux sur quelque chose qu'il n'aurait jamais dû ouvrir, mais ce jeu qu'il y a dans la mode, dans le design des vêtements. Puis là, il nous expliquait, vous savez, lorsque vous arrivez dans une place, puis à un moment donné, il y a une fille qui, sa bretelle de sa robe tombe. Puis tu dis, tableau, ça a été mal fait, cette affaire-là. Elle dit, non, pas du tout. Ça a été designé pour ça. Ce décolleté qui, lorsque tu te penches, dévoile tout, ou cette jupe qui se fend juste à chaque pas, et qui donne l'espoir, peut-être, que tu vas pouvoir voir ce que tu n'aurais pas dû voir. Voyez-vous, notre culture est remplie de ça. De jouer avec ces choses qui, on ne devrait pas, mais ça serait tellement bon. C'est entrer dans notre culture. Et l'interdit devient une source, une pierre d'achoppement. C'est le deuxième groupe. Il connaît la loi de Dieu. Il tente de lui obéir par lui-même parfois, mais sa nature pécheresse opère autant en lui, se sert même parfois de la loi pour le tenter. Alors, Paul pose la question au chapitre 7, mais à quoi sert la loi de Dieu? Si elle devient une pierre d'achoppement, on aurait été mieux sans loi. Non, au contraire, Paul dit, voilà, la loi est un pédagogue. Elle est sainte, elle est parfaite. Elle nous aide à comprendre qui est Dieu. Nous sommes étrangers à Dieu par notre nature pécheresse. Elle nous aide à comprendre qui est Dieu dans ses standards. Et dans bien des cas, elle sert à révéler le péché dans nos cœurs. Et la loi devient un pédagogue par sa sainteté. Elle nous montre notre incapacité à atteindre ses standards par nous-mêmes. Il y a donc deux groupes déjà qu'on a vus. Ceux qui ne connaissent pas du tout la loi de Dieu, ceux qui sont exposés à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, qui essaient de la remplir par leur propre force. Quel combat épuisant! Le troisième groupe que je vois dans Romains, mais ce sont les chrétiens. Ces pécheurs, sauvés par grâce, justifiés par l'œuvre de Christ à la croix, qui ont encore une nature pécheresse. Les chrétiens demeurent pécheurs jusqu'à la fin, mais en même temps, ils ont une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et je pense que Paul est en train de parler de son expérience. C'est ce que je comprends dans Romains 7, à la fin du chapitre. Paul est en train de parler de son expérience. Si vous êtes familier avec les débats qu'il y a sur l'interprétation de ce chapitre, je vais vous lire les versets 15 à 23. Romains 7, 15 à 23. Tournez avec moi si vous n'êtes pas déjà là. Versets 15 à 23. Et je crois que Paul est en train de décrire l'expérience de tellement de chrétiens, vous allez facilement pouvoir vous identifier. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et si Paul s'était arrêté là, nous serions comme le reste des hommes, sans espoir, extrêmement découragés. Mais Paul continue au verset 24, et je vous lis encore quelques versets. « Misérable que je suis! » C'est Paul qui s'exclame. « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair, le péché en nous, la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. N'est-ce pas, le Fils est devenu entièrement homme? Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voyez-vous, tant et aussi longtemps que nous demeurons dans ce corps, notre nature pécheresse demeure et il y aura toujours un combat en nous. La nature pécheresse est là. Mais ce qui a changé, c'est que Christ est mort sur la croix pour que je sois libéré du péché. Le péché a perdu son pouvoir sur moi, ses droits sur moi, son autorité sur moi. J'ai une nouvelle identité en Jésus-Christ et c'est là notre espoir. Nous livrons donc un combat en sachant que nous sommes sauvés et que nous avons été justifiés par la foi. Nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort par le sacrifice de Jésus-Christ. Et Paul nous dit, nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus seuls dans ce combat. Tant et aussi longtemps que Martin Luther n'a pas saisi le salut par grâce et qu'il étudiait la lettre aux Romains qui était placée devant les standards de sainteté de la loi de Dieu, sans avoir saisi la grâce et le pardon et la justification par la foi, le christianisme lui semblait impossible à supporter, impossible à soutenir, beaucoup trop exigeant. Mais voilà, nous ne sommes plus seul. Nous avons été justifiés par la grâce et nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Premier point à retenir ce matin, c'est quoi le premier point? Bonne question. On a une nouvelle identité. On a une nouvelle identité. Deuxième point à retenir, malgré notre nouvelle identité, on a une vieille nature et une nouvelle nature. Maintenant, quel est le secret de ce combat? C'est de marcher par l'Esprit. Dans la justice. Par l'Esprit de Dieu, entrer dans cette justice. C'est le troisième élément à retenir. Regardez avec moi encore une fois Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que je fais lorsque je tombe et que je pêche? J'essaye encore plus fort! Pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça que je fais. Je me tourne vers Jésus-Christ. Et je saisis la grâce qu'il y a en Christ. Parce que je sais que je ne suis point sauvé par mes œuvres. Ce n'est pas parce que je réussis que je vais acquérir mon salut. Mon salut est déjà acquis par la grâce. J'ai été déclaré juste. Et je m'en retourne à la croix pour saisir cette grâce, ce pardon. Je me repens dans mon cœur. Et je dis, Seigneur, j'ai une nouvelle identité en Jésus-Christ. J'en suis indigne encore une fois, Seigneur. J'en suis indigne encore une fois. Partez pas trop vite de ce moment. Laissez Dieu enlever la culpabilité quand il enlève la culpabilité. J'en suis indigne, Seigneur. Mais tu es mort à la croix pour mes péchés. Je suis sauvé par grâce, Seigneur. Je me repens. Je me détourne de ce péché et je veux vivre dans cette nouvelle identité par la puissance de l'Esprit Saint, sachant que ton Esprit travaille en moi pour me transformer, pour me changer. Et je vais entrer dans ces œuvres de sainteté auxquelles tu m'appelles. Je sais que je vais demeurer pécheur jusqu'à la fin. Je sais que le combat va rester jusqu'à la fin. Mais en même temps, je sais que je n'appartiens plus au péché. Il n'a plus ses droits sur moi. Autrement, je ne serais pas justifié par la foi. Comme j'ai été justifié par la foi, le péché n'a plus de droits sur moi de la même manière. Je me confie dans la grâce de Dieu pour vivre dans la sainteté pour sa gloire. Regardez avec moi au chapitre 8, les versets 10 et 11, où on voit cette double réalité, ce combat qu'il y a en nous. Romains 8, 10 et 11. Et si Christ est en vous, on parle du chrétien, n'est-ce pas? Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Quand Paul parle dans Romains de la chair, du corps, c'est pas uniquement notre corps physique. Ailleurs, il va parler du renouvellement de l'intelligence, donc notre intelligence, notre pensée aussi doit être renouvelée. Il est en train de parler de notre nature pécheresse, d'accord? Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Il y a donc cette dualité, ces deux réalités en nous qui sont là. Verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, bien celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » La transformation n'est pas juste pour l'autre côté. Ce n'est pas juste après la mort. L'esprit habite en vous et déjà, malgré notre nature pécheresse, il commence à induire en nous la vie de Dieu, à placer en nous la vie de Dieu, à nous faire entrer dans cette vie de sainteté. Et nous allons tomber souvent, c'est l'expérience de Paul, « Qui me délivrera de ce corps de mort? » On va le crier encore souvent, je vous l'assure. Jusqu'à la fin, on va le crier encore souvent. Souvent. Mais grâce soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce que je suis sauvé par grâce, déclaré juste, de ce que je n'appartiens plus au péché, je ne suis plus esclave du péché, je ne peux pas retourner au péché comme si c'était ça mon identité, j'ai été racheté à un grand prix. Et je peux vivre maintenant pour Dieu. Et son esprit est en moi pour commencer cette œuvre de transformation et la poursuivre. Ainsi, Paul dit, « Affectionnez-vous aux choses de l'esprit. » Ailleurs, dans Colossiens, il dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, écoutez bien ceci, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Marcher par l'Esprit, c'est comprendre que les choses de cette vie sont passagères. Marcher par l'Esprit, c'est comprendre et discerner le bien et le mal dans notre culture, dans notre monde, dans notre époque. Marcher par l'Esprit, c'est aller au cinéma et discerner le bien du mal pour ne pas lui permettre de venir dominer notre vie. Marcher selon l'Esprit, c'est renoncer aux œuvres de la chair pour s'affectionner aux choses de Dieu. C'est être à l'écoute de l'œuvre que l'Esprit est en train de faire en nous pour nous dire, « Yannick, attends un petit peu. Ton raisonnement est faux ici. Tu es en train de retourner à ton ancienne vie. » Marcher par l'Esprit, c'est être attentif quand un frère, une sœur, ton épouse, ton époux, un ami dans le Seigneur vient te voir et dit, « Il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche, Yannick. » Et l'Esprit de Dieu qui habite en toi te dit, « Sois attentif. » Marcher par l'Esprit, c'est ne pas taire. Ne pas faire taire chaque fois que Dieu nous parle pour adresser des choses dans notre vie. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu nous a attirés à Dieu. La foi est un don de Dieu. Tout a commencé par une œuvre de Dieu. Il n'y a pas de conversion sans une œuvre du Saint-Esprit en nous. Ça n'existe pas. Depuis longtemps, l'Esprit Saint travaille en tous ceux ici qui appartiennent à Jésus-Christ. Mais il n'a pas terminé son travail. Et donc, il est en train de nous aider à nous rappeler constamment de notre nouvelle identité pour fixer les regards sur Christ, fixer les regards sur la gloire à venir. Nous avons une nouvelle identité. On doit apprendre à vivre selon cette nouvelle identité. C'est un apprentissage vivre comme des hommes et des femmes libres en Jésus-Christ, non plus comme des esclaves du péché. Cependant, nous avons encore une vieille nature et nous avons une nouvelle nature. Et il va y avoir un combat jusqu'à la fin qui va venir de là. Où est-ce qu'on trouve la victoire dans ce combat? C'est en marchant par l'Esprit de Dieu, en retournant constamment à la croix, demandant pardon à Dieu, se repentant sincèrement de nos péchés, pour s'engager encore une fois à poursuivre la sainteté par la grâce de Dieu. Et le combat va demeurer jusqu'à la fin. C'est pourquoi Paul termine cette portion de Romains avec cette glorieuse espérance que nous avons en Jésus-Christ. Regardez avec moi au chapitre 8. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et il y a des gens qui peuvent être à l'extérieur et en fait, je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui écouteraient le message que je suis en train de prêcher et diraient, écoutez, vous essayez de vous faire croire quelque chose. Vous connaissez l'expression des vues de l'Esprit? Je ne parle pas de l'Esprit Saint, là. Vous êtes en train de vous faire croire quelque chose. Je suis chrétien. Le Saint-Esprit habite en moi. Je vais changer. Je comprends qu'ils le voient ici. Mais moi, je sais. C'est ce que Paul me dit ici. Moi, je sais que le Saint-Esprit habite en moi. J'ai reçu un esprit d'adoption par lequel, chaque fois que je pêche, et c'est la différence entre moi et eux, j'ai bien aimé ce qu'un frère nous a partagé dimanche dernier. La différence entre eux et moi, c'est que moi, je me tourne vers mon Père. Je me tourne vers mon Père. Et je crie, Père, viens à mon secours. Je suis indigne de toi encore une fois. J'ai cet esprit d'adoption qui est en moi, les prémices, le début de cette transformation qui habite en moi. Je sais que ce n'est pas juste du conditionnement que je suis en train de faire, de ma pensée. Et les gens qui me connaissent, mon épouse, moi-même, les gens autour de moi, savent bien que je ne suis plus celui que j'étais, que le Saint-Esprit a changé toutes sortes de choses dans ma vie. Mon épouse sait aussi qu'il n'a pas terminé. Mes enfants commencent à le percevoir. Mais elle sait, et je sais, que je ne suis plus l'homme que j'étais. Parce que l'Esprit Saint travaille en moi. Et ça implique beaucoup de souffrance. On n'est pas comme le reste des hommes qui vont juste se complaire dans l'œuvre de la nature pécheresse, l'œuvre du péché. Nous livrons un combat pour glorifier notre Dieu et marcher dans la sainteté. Cela implique beaucoup de souffrance, parce que la nature pécheresse demeure. C'est ce que Paul nous dit ici. Il dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il dit, « Fixez les regards sur la gloire à venir. Attendez la rédemption de votre corps lorsqu'on va être libéré. » Vous savez, on soupire dans ce corps. Nous attendons d'être libérés entièrement de notre nature pécheresse et qu'il n'y ait plus de combat. Nous soupirons dans ce corps attendant d'être libérés. C'est ce qu'il dit un tout petit peu plus loin. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Mais nous croyons fermement, parce que son Esprit habite en nous, nous croyons fermement que cet Esprit d'adoption qui nous amène à crier « Abba, Père », à se savoir enfant de Dieu, nous croyons fermement qu'il va achever cette œuvre lorsque nous allons aller dans sa présence et que nous allons être enfin libérés de toute nature pécheresse. Et nous savons que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Le Saint-Esprit travaille en nous, le Saint-Esprit intercède pour nous et le Saint-Esprit... Dieu fait concourir toutes choses à notre sanctification. On l'a chanté ce matin dans un des chants. C'est toi, Seigneur, qui permet les épreuves dans ma vie. Je ne me souviens plus c'était quoi les paroles, mais c'est en plein ça qu'on est en train de dire. Seigneur, souverainement, tu fais concourir toutes choses à mon bien, pour ma sanctification, pour me préparer pour cette espérance glorieuse où j'irai dans ta présence. En attendant, il y a un soupir en nous, frères et sœurs. Mais notre réconfort ultime, Verset 32. Romains 8, 32. « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? » Vous savez, chaque fois que vous criez « misérable que je suis », souvent, il y en a un autre qui vient appuyer votre cri, c'est l'accusateur des saints, le diable qui vient et qui dit « c'est vrai que tu es misérable ». Mais qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Maintenant, écoutez bien les versets qui suivent, parce que dans ce combat que nous livrons, c'est ça notre espérance. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou les persécutions ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, si vous avez fait le pas de foi, de passer par les eaux du baptême et de témoigner publiquement de votre engagement à Jésus-Christ, rappelez-vous de votre baptême. C'était le symbole de cette nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ. Nous demeurons pécheurs comme le reste des hommes, mais en même temps, le péché n'a plus d'autorité sur nous. Nous avons une nouvelle identité. Nous sommes libres du péché, appelés à vivre pour Dieu maintenant, dans la justice et la sainteté. Le combat demeure. La vieille nature est là. Mais la nouvelle nature est là. Et on va crier encore bien des fois jusqu'à la fin. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais marcher par l'esprit dans ces moments de combat. Marcher par l'esprit en retournant à la croix. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Car il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Retournez à la croix. Saisissez la croix dans tout ce qu'elle représente. Allez-y pas de manière superficielle, tu m'accordes ton pardon, puis on passe à autre chose. Restez à la croix. Attendez que Dieu vienne vous parler à la croix. Parce qu'il va vous parler de son pardon, de sa justice qui vous est imputée, du fait que de toute façon, vous n'arriverez jamais à observer toute la loi de Dieu par vos propres forces. Mais il va vous parler aussi de ce que Christ a acquis à la croix. Votre libération du péché, de votre appel à marcher dans la sainteté. Et ça va produire en vous une profonde repentance. Pas quelque chose de superficiel. Une profonde repentance qui dit, j'ai une nouvelle identité, je ne peux pas rester là dans le péché. J'ai un autre appel. J'ai un autre appel. J'appartiens maintenant à Dieu. Je dois vivre pour sa gloire, marcher dans la sainteté. Et saisissez par la foi le pardon, la grâce qui se trouve là et la conviction que l'œuvre qu'il a commencée en vous, il va la terminer pour le jour de Christ. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Regardez à l'espérance qui nous attend. Marcher pour la gloire de Dieu. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, je veux élever ton nom ce matin. Seigneur Jésus, par ta mort sur la croix, tu m'as donné une nouvelle identité en Christ, en toi. Parfois, Seigneur, j'ai de la difficulté à le voir, à le croire de par ma faiblesse, Seigneur. Mes progrès sont par moments si lent. Et je serais tenté, Seigneur, de douter de toi. Et pourtant, je sais que je suis sauvé par grâce, que je suis pardonné par grâce, que la justice de Christ m'est imputée par la foi seulement, sans mes œuvres. Pardonne-moi, Seigneur, chaque fois que je doute de l'œuvre que tu veux faire en moi pour m'amener à l'image de la stature parfaite de Christ. Pardonne-moi, Seigneur, chaque fois que je méprise la croix. Seigneur, je veux te prier pour ceux dans cette assemblée qui n'ont pas saisi l'Évangile, qui voient le christianisme comme un joug impossible à supporter, un ensemble de lois incroyables. Je pense aux jeunes gens dans cette assemblée qui voient leurs parents vivre toutes sortes de combats dans la vie chrétienne et qui se disent « c'est trop dur, ça ne m'intéresse pas, la facilité du péché dans le monde m'attire ». Ô Seigneur, révèle-leur la croix, révèle-leur ta colère qui repose sur tous les hommes, ce jugement éternel qui attend tous ceux qui ne viendront pas à Christ. Donne-leur de te craindre, ô Dieu, pour crier et appeler à l'aide. Et viens leur révéler la grâce qu'il y a en Jésus-Christ. Je te prie, Père, pour ceux parmi nous qui, depuis quelque temps, quelques jours, quelques mois, quelques années, ont oublié leur identité nouvelle en Jésus-Christ et se comportent comme des esclaves du péché. Comme cet esclave qui, pris de folie, retournerait vers son ancien maître pour le supplier de le fouetter à nouveau et de lui remettre ses chaînes. Seigneur, nous avons tous passé par là. Je te prie pour ces frères et ces sœurs qui ont besoin, Seigneur, de revenir à la croix. Peut-être ont-ils attristé, voire éteint l'Esprit Saint en eux. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Tu dis dans ta parole que tu n'éteins pas le lumignon qui fume, Seigneur. Mais ton Esprit est encore là. Fais grâce. Ramène-les à la croix. Donne-leur ce feu, ce désir profond de marcher dans leur nouvelle identité. Et apprends-nous, Seigneur, je t'en prie, à vivre chaque jour près de la croix pour saisir ta grâce et marcher avec les yeux fixés sur l'éternité. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.